Organiser et formaliser, quel modèle pour mieux coopérer au travail? C'est ce qu'on va voir avec Armand Brice-Coadio, professeur de gestion des ressources humaines à la Haute École de Gestion Arc. Alors, à quoi sert-il de formaliser le travail?
La coordination entre les employés et l'entreprise ne va pas toujours de soi, car les employés sont tous différents. Mais également parce qu'un certain nombre de facteurs contraignent la façon dont les relations de travail peuvent se dérouler harmonieusement. Au moyen de fiches de poste, descriptifs de fonctions ou des résultats à atteindre, la formalisation définit le périmètre de chacun et les moments dans lesquels on est amené à coopérer avec les autres. C'est un outil au service du management des performances individuelles et collectives. En fait, il faut formaliser les procédés de travail afin que chacun sache ce qui est attendu de lui, tout en évitant de tomber dans une subdivision à outrance des tâches. Mintzberg, le pape canadien du management, distingue 6 mécanismes fondamentaux de coordination. La supervision directe, l'ajustement mutuel, la standardisation des procédés de travail, la standardisation des résultats à atteindre, la standardisation des qualifications des employés et la standardisation des normes ou des valeurs. Toutefois, il faut se rappeler que l'entreprise ne peut pas toujours tout faire en raison de certains facteurs de contingence.
Quels éléments doivent être pris en compte pour mieux se coordonner au travail?
Pour réussir une formalisation et in fine une coopération adéquate, 4 grandes caractéristiques de l'entreprise doivent être considérées. D'abord, les technologies. Est-ce qu'on produit en grande série ou en petite série? Ensuite, la stratégie. Est-ce que notre objectif est de réduire les coûts de production ou alors de se différencier, notamment en développant notre créativité? Quel est le niveau de qualification de nos employés? Est-ce qu'ils ont des formations de base ou c'est des employés très autonomes et très qualifiés? L'âge ou la taille de l'entreprise. Dans les petites entreprises, on fonctionne volontiers sur un mode organique. Lorsque l'entreprise s'agrandit, on est obligé d'avoir une coordination beaucoup plus formelle.
Mais concrètement, comment éviter le faux pas?
On peut déjà retenir que le niveau ou la complexité de la formalisation est proportionnelle à la taille de l'entreprise. Ainsi, la flexibilité qui est de mise dans les petites entreprises tend à disparaître avec les grandes entreprises. Pour donner un ordre d'idée, on peut dire qu'au-delà d'une 50aine de salariés, un système d'information intégré devient par exemple nécessaire. Alors, si l'entreprise est petite, les employés faiblement qualifiés, de surcroît dans un environnement où la concurrence est rude, les dirigeants ont meilleur temps de superviser directement le travail confié. Par contre, à mesure que l'entreprise s'agrandit, le besoin de standardisation se fait plus pressant. On peut ainsi standardiser les procédés lorsque les employés sont faiblement qualifiés et qu'on veut s'assurer qu'ils respectent les normes de production. C'est le cas des téléopérateurs des compagnies de téléphone. Ou alors, on peut standardiser les résultats afin de laisser aux employés une certaine marge de manœuvre. En lien avec la standardisation des résultats, l'entreprise peut vouloir s'assurer, avant de les intégrer, que les employés disposent des bonnes qualifications. Ceci pour éviter d'avoir à les surveiller de trop près dans leur travail. Dans le domaine hospitalier, les médecins et les infirmiers bénéficient parfois d'une très grande autonomie parce qu'on sait qu'ils sont convenablement qualifiés pour effectuer un travail de qualité. Pour terminer, l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, peut souhaiter standardiser les normes, c'est-à-dire les règles et les valeurs sur lesquelles repose la réalisation de ses objectifs et missions. Cette dimension normative de la formalisation des procédés est un trait culturel que partagent de nombreuses organisations caritatives.